Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 21 avril. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le débat télévisé d'hier soir fera-t-il bouger les lignes du second tour? Retour dans ce journal sur les moments forts, un Emmanuel Macron combatif, une Marine Le Pen patiente, posée. Nous serons avec les militants RN qui jugent Marine Le Pen donc beaucoup plus patiente et posée. Large part du journal consacrée à ce débat, on voit ça après les autres titres, Anaïs.
De l'autre côté de la frontière ukrainienne, des Russes opposés à la guerre se mobilisent pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. En France, l'inquiétude pour l'avenir des maternités devant le malaise croissant des sages-femmes.
Et les invités d'Inter au lendemain donc de ce débat, 7h50, le philosophe Pierre-Henri Tavoyot, avec lui réflexion sur les choix et le rôle qui s'offre désormais aux électeurs, sur ce qu'on peut ou doit raisonnablement attendre d'un ou d'une présidente et sur l'art de plus en plus compliqué de gouverner une démocratie. 8h20, les mots, les images, les discours politiques qui se sont exprimés hier soir à la télévision. C'est un grand entretien en forme de table ronde avec Jérôme Fourquet, Cécile Alduit et Sacha Mandel. Et puis vous, amis auditeurs, le standard 01 45 24 7000.
France Inter. Une rapide poignée de main, un sourire à leur arrivée sur le plateau pour lancer 2h50 de discussion. Emmanuel Macron et Marine Le Pen hier soir pour ce fameux débat de l'entre-deux-tours. Sur la forme, on retiendra le faux départ de Marine Le Pen, un débat courtois. Sur le fond, argument contre argument entre deux programmes que tout oppose. Retour sur les moments forts avec vous, Maxence Lambrecq.
Ce n'était cette fois pas un match de boxe, mais une finale d'escrime.
Le temps presse. Beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen.
Oui, c'est vrai. Écoutez, on voit qu'on vieillit.
Elle s'est assagie pour faire oublier 2017. Lui s'est endurci.
Vous avez contracté un prêt auprès d'une banque russe, proche du pouvoir.
Première touche.
Vous dépendez de M. Poutine. Vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie.
Je suis une femme absolument et totalement libre.
Pouvoir d'achat, réforme des retraites, il prend l'avantage.
Et chez vous, professionnel qui commencera un métier pénible à 25 ans, il va jusqu'à 67 ans dans votre système. Vous le savez très bien.
Un puissant silence avant une réplique à laquelle il trouve vite une parade.
Ne convoquez pas ici les partenaires sociaux. Ils ont encore dit il y a quelques jours tous qu'ils ne voulaient pas travailler avec vous.
Arrive l'écologie, ils n'en avaient pas parlé il y a 5 ans.
Vous allez démanteler les éoliennes qui existent, ce qui coûte un argent fou. Vous êtes climato-sceptique.
Vous êtes un peu climato-hypocrite.
Il l'accuse d'hypocrisie sur l'Union européenne.
Je ne souhaite pas en sortir.
Donc 80% du programme a changé. C'est une bonne nouvelle.
22h30, l'éducation.
C'est une réforme qui consiste à payer les professeurs en fonction des résultats de leurs élèves. Je sais pas, c'est non. McKinsey qui a proposé ça.
Ça y est, j'attendais celle-là.
Son offensive reprend sur l'interdiction du voile.
Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité.
Il n'arrive parfois pas à masquer son ennui, enfoncé dans son siège, les bras croisés.
Non mais d'accord.
Mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible.
Monsieur Macron, ne me donnez pas de leçons.
Je vous donne pas
sur
de leçons.
Le financement de
je
mon
connais
prochain.
Le numéro par cœur.
Ils seront contents de
c'est
la prendre.
C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen.
Car il cherche du. Il cherche
arrêtez,
emploi,
arrêtez ça.
Ce matin, le RN veut résumer ce débat à, je cite, ses passages arrogants et méprisants, alors que la Macronie a le sentiment du devoir accompli.
Sans surprise, en effet, les deux camps estiment que leur champion s'en est le mieux tiré. C'est le cas des militants du Rassemblement National que vous avez suivi, Hugo Charpentier, à Decazeville dans l'Aveyron.
Écran géant et plateau repas, ambiance festive pour cette vingtaine de militants.
Oui, très bonne ambiance. On est proche de la victoire dimanche.
Mais à peine le débat commencé, les sourires s'effacent, les visages se crispent. Visiblement déçus, certains s'en vont, agacés, disent-ils, par Emmanuel Macron.
On ne peut pas s'empêcher d'être donneur de leçons et condescendant, c'est plus fort que lui.
Le temps passe et pas de quoi s'emballer pour ces militants, sauf peut-être à l'occasion de la réponse de Marine Le Pen concernant son emprunt à une banque russe.
Il y a des millions de Français qui, dans les 5 dernières années, sont allés dans des banques françaises pour faire des prêts. Ils ne vous doivent rien. La seule chose qu'ils doivent, c'est rembourser leurs prêts, exactement comme moi.
Thierry reprend alors quelques couleurs.
Je trouve Marine Le Pen beaucoup plus patiente, beaucoup plus posée qu'Emmanuel Macron.
Mais ensuite, les thèmes défilent et la salle se vide. Minuit approche, le débat terminé, quelques applaudissements timides. Mais tous sont d'accord, c'est bien Marine Le Pen qui s'en est le mieux sortie.
J'espère que ça va justement permettre aux personnes qui sont dans le doute d'enlever cette diabolisation qu'il y a sur le parti RN et qui vont amener leur voix dimanche dans le bon sens, c'est-à-dire pour Marine Le Pen.
Il reste à ses militants encore 2 jours pour convaincre.
Fin de la campagne officielle demain soir. Au-delà des réactions des deux camps, celle de Gilbert Collard, passé chez Éric Zemmour, soutien de Marine Le Pen, il regrette une discussion lunaire. Le patron des députés députés LR, a vu, lui, je cite, une différence claire de niveau et de valeur et redit qu'il votera pour Emmanuel Macron. Quant aux insoumis, si l'ennui était mortel, le débat Macron-Le Pen serait un cimetière, tacle Mathilde Panot, la chef de file des députés insoumis.
Il est 7h05, l'objectif pour chaque finaliste hier, Anaïs, était aussi d'élargir son électorat pour le second tour.
On saura dimanche qui aura le mieux réussi. Emmanuel Macron a en tout cas lancé des perches en direction des enseignants, pour beaucoup exaspérés après 5 ans de ministère Blanquer. Et cette annonce, plus de démarrage de carrière sous les 2000 euros par mois.
La revalorisation des enseignants a commencé sous ce quinquennat. Elle conduira, et je veux la poursuivre, dès le début, si les Françaises et les Françaises me font confiance, ce qui fait que, de manière inconditionnelle, il y a une revalorisation d'environ 10% de nos enseignants. Ce qui fait qu'il n'y aura plus de, en particulier, démarrage de carrière sous 2000 euros. Donc je veux le dire ici très clairement, et c'est conditionné à absolument rien.
Marine Le Pen, de son côté, dit vouloir revaloriser les salaires des professeurs de 3% par an avec une demi-journée de travail supplémentaire en primaire. L'école, la santé, sur le fond, que retenir ? La candidate d'extrême droite a finalement peu insisté sur la réforme des retraites qu'elle critique pourtant chez le président. Elle est restée assez vague sur son concept d'Europe des nations. Emmanuel, de son côté, s'est employé à démontrer les incohérences du programme de Marine Le Pen. Et sur le climat, enjeu fondamental, il reste 3 ans selon le GIEC pour prendre des mesures déterminantes pour l'avenir de la planète. Les deux candidats, Célia Kyrée, ont parlé énergie en laissant de côté le logement ou les transports et se sont surtout livrés à une passe d'armes.
On est sur une controverse claire. Vous êtes climato-sceptique.
Je suis absolument pas climato-sceptique, mais vous êtes un peu climato-hypocrite.
Et Marine Le Pen d'enchaîner sur l'écologie punitive d'Emmanuel Macron. Le président sortant prend le dessus sur le fond. Il mise à la fois sur le nucléaire et les énergies renouvelables, promet de doubler le rythme de baisse des émissions, là où elle insiste uniquement sur les dangers des éoliennes. Ce débat n'est pas à la hauteur pour Jean-François Julliard de Greenpeace.
Effectivement, Marine Le Pen a des propos qui sont parfois de l'ordre du climato-scepticisme, et Emmanuel Macron a un bilan qu'on a dénoncé comme étant du climato-cynisme. On a des bouts de choses à droite à gauche qui sont éparpillés, qui ne font pas un projet, une vision écologique en tant que telle, malheureusement.
Et quand Marine Le Pen focalise l'attention sur les produits d'importation, le libre-échange responsable de 50% des émissions, elle ne se trompe pas, mais elle omet un détail important pour Anne Bringaud du réseau Action Climat.
Ce qu'elle ne dit pas, c'est que si on relocalise complètement ces productions, eh bien ça ne veut pas dire qu'on va baisser les émissions de gaz à effet de serre. On va simplement les déplacer pour les ramener sur les territoires nationaux. Et puis elle n'a pas évoqué le fait que dans ces importations, il y a beaucoup d'énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon.
Et en effet, la candidate du RN ne veut pas sortir des énergies fossiles, à la différence d'Emmanuel Macron. Mais les militants pour le climat attendaient plus de détails concrets sur les projets des deux finalistes de cette présidentielle. Marine Le Pen qui souhaite aussi baisser la TVA sur le gaz et le pétrole. Enfin, la campagne ne s'arrête pas là. Retour sur le terrain pour ces deux derniers jours. Emmanuel Macron à Saint-Denis en début d'après-midi, département avec le plus fort taux d'abstention. Marine Le Pen sera dans les Hauts-de-France, arrêt dans une petite ville dans la Somme à la mi-journée avant un meeting à Arras.
Il est 7h08 en Ukraine, Anaïs, la chute imminente de Mariupol.
Les derniers combattants refusent de se rendre mais demandent des garanties de sécurité. Le couloir humanitaire prévu hier pour évacuer les civils n'a pas pu se faire et hier soir l'Ukraine a appelé à la tenue de négociations avec la Russie sur le sort de cette ville assiégée. La Russie, où critiquer la guerre expose à la répression, des citoyens opposés au conflit ont donc décidé d'agir. Notre correspondant en Russie, Sylvain Tronchet, a suivi une jeune femme à Belgorod, 20 km de la frontière, 50 km de Kharkiv. Elle a lancé une chaîne de solidarité pour venir en aide aux Ukrainiens.
Nous partons avec Nadiezhda, direction la frontière ukrainienne, à quelques kilomètres de là où elle doit récupérer plusieurs réfugiés. Depuis quelques semaines, cette photographe a cessé de travailler pour venir en aide aux Ukrainiens.
Au début, je voulais juste aider des amis, un couple marié et leurs animaux. Et j'ai lancé une collecte sur Instagram, j'ai enregistré une vidéo et cette vidéo est devenue virale. Et 2 jours après, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement mes amis, mais aussi 72 autres personnes qui avaient besoin d'aide humanitaire.
Depuis, Nadiezhda multiplie les collectes de nourriture, de médicaments. Son appartement est rempli de sacs, de colis et 25 bénévoles l'épaule. Hier, elle a aidé Lyudmila, une retraitée qui vient de se résoudre à fuir alors que les combats font rage dans son village de la région de Kharkiv.
On était habitués à ne plus avoir de lumière. Je suis une personne de la vieille école, j'avais des provisions de sucre et de semoule. Je ne manquais de rien. Mais les derniers jours étaient vraiment effrayants. Ça volait, ça éclatait, ça grondait tellement que j'avais peur.
Hier soir, Lyudmila a dormi chez Nadiezhda. Dans quelques jours, elle rejoindra peut-être le reste de sa famille réfugiée en Allemagne. Nadiejda ne nous dira pas ce qu'elle pense de cette guerre, mais elle a bouleversé sa vie. Belgorod, Sylvain Tranchet, France Inter.
Et après la guerre, la crainte de la cyberattaque russe, mise en garde des États-Unis selon leur service de renseignement, Moscou a fait appel à des cybergroupes criminels pour lancer des attaques contre des institutions, des entreprises en réponse aux sanctions économiques qui frappent la Russie. Une roquette tirée par des groupes palestiniens depuis la bande de Gaza, les frappes de l'armée israélienne en riposte et puis encore des roquettes. La crainte d'une nouvelle escalade en Israël sur fond de tensions sur les lieux saints à Jérusalem depuis plusieurs jours. Le gouvernement israélien dénonce la provocation de centaines de nationalistes juifs qui avaient prévu une marche dans la vieille ville où se trouve l'esplanade des mosquées. Retour en France et cette question qui se pose sur l'avenir des maternités. Première alerte, lundi, celle de Nevers avait fermé faute de sage-femme, 14 en arrêt maladie, burn-out collectif. Elle a rouvert grâce à la réserve médicale. Mais combien de maternités vont subir le même sort? Car à Neuschwanstein, le malaise dans la profession est très profond.
L'accouchement a beau être la plus belle partie de leur métier, selon leurs propres mots, les sages-femmes choisissent de moins en moins de travailler à l'hôpital. À peine les deux tiers aujourd'hui, là où elles étaient les trois quarts il y a 10 ans. Résultat, 1 millier de postes restent vacants selon leur syndicat majoritaire. Camille Dumortier est la présidente de l'ONSSF.
Ça explose partout, en fait. Dans les hôpitaux, c'est à flux tendu, notamment parce que nous sommes régis par les décrets de périnatalité qui datent de 1998, donc avant les 35 heures et avant que les sages-femmes aient la compétence en gynécologie, notamment.
Le métier a changé, la prise en charge des parturientes est plus patiente, les gestes plus techniques, plus nombreux. Alors certes, elles ont obtenu en novembre dernier une revalorisation nette de 500 euros par mois, mais cela ne suffit pas pour remplir les écoles de sages-femmes, un peu plus de 1000 places par an et un problème de valorisation du diplôme, selon Isabelle Dérendinger, elle est présidente du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes.
La filière de recrutement pour faire des études de sages-femmes est la même que pour faire des études de médecin, de dentiste ou de kinésithérapeute. Dès que le diplôme d'État est obtenu, les sages-femmes exercent à l'hôpital plutôt comme des auxiliaires de santé paramédicales.
C'est pour cet été que les sages-femmes s'inquiètent le plus. Les maternités qui fermeront faute d'effectifs et de remplaçantes rouvriront-elles à la rentrée?
En Corse du Sud, l'ex-directeur de la Chambre d'agriculture et ses proches jugés pour escroquerie en bande organisée à Ajaccio, une fraude aux aides européennes évaluée à 1 400 000 euros. La famille Rossi avait déclaré entre autres un cheptel de 532 bêtes. Un premier contrôle n'en avait trouvé aucune, un second moins de la moitié. Le procureur a requis hier des peines allant jusqu'à 36 mois de prison, dont 18 mois avec sursis. Et puis en football, la bonne opération de l'Olympique de Marseille hier soir. Difficile vainqueur à Nantes 3-2, mais qui conforte sa deuxième place et retarde le sacre du PSG. Trois clubs, Rennes, Strasbourg, Monaco, se partagent la troisième marche du podium. Ça s'assombrit pour le FC Metz, dernier de Ligue 1, défait à Lorient après un but marqué dans les arrêts de jeu et validé par la vidéo.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, le feuilleton de la France, épisode 26. Aujourd'hui, parole aux militaires français à Mourmelon, à l'heure du retour de la guerre en Europe.